rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission de rencontre avec nos évêques de la région. Pendant ce mois de décembre, nous sommes accompagnés de Monseigneur Luc Meyer. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibault, je suis heureux de vous retrouver. Bonjour chers auditeurs.
Évêque de Rodez et Vabre, nous continuons le tracé de votre parcours. La semaine dernière, nous avons longuement abordé la question de vos études au séminaire et de la signification de ce passage, de ces 6 années. Très profonde, très marquante pour vous. Et puis vous voilà ordonné prêtre dans le diocèse de Laval.
C'était le 7 mai 2000.
Le 7 mai 2000.
C'était l'année du jubilé. Ouais. Et c'était, je l'ai découvert après, le jubilé des martyrs, ce jour-là. Et donc j'ai été ordonné prêtre pour un diocèse dans lequel j'étais arrivé 8 ans avant, puisque mes parents avaient pris leur retraite dans un petit village qui s'appelle Pontmain, où la Vierge Marie est apparue.
Il y avait un célèbre sanctuaire, oui.
Voilà. Mmh. Et puis, en 1994, je suis entré au séminaire. En 2000, je suis ordonné prêtre, avec le pari, finalement, que je n'ai pas beaucoup de racines dans ce diocèse, mais que les racines, ça pousse. Et donc, il y a 30 ans, j'ai fait le pari qu'on pouvait dépoter une plante, la rempoter et qu'elle pousserait des racines. J'ai été bien accueilli dans la terre de la Mayenne et j'y ai poussé des racines. J'espère que j'y ai porté du fruit un peu. Ce ministère de prêtre, il a commencé avec beaucoup de joie. J'ai eu la chance de ne pas être curé tout de suite, oui. Puisque pendant 6 ans, j'ai été coopérateur d'une paroisse. Mon curé m'avait dit, tu sais...
Encore un mot bizarre, coopérateur, ça veut dire
coopérateur,
quoi?
Coopérateur, ça veut dire celui qui n'est pas curé, c'est un peu comme vicaire.
C'est un peu pareil, d'accord.
Mais surtout, mon curé m'avait dit, ne t'occupe pas du conseil économique, tout ça, ne t'occupe pas des relations avec les politiques, occupe-toi des jeunes, occupe-toi des choses comme ça.
Comme tous les jeunes prêtres, on vous confie, voilà.
Une grande joie de pouvoir vivre ça. J'avais 2 ministères, j'étais adjoint au directeur diocésain de l'enseignement catholique.
Tout de même, l'enseignement déjà vous rattrapait.
Alors oui, moi qui avais renoncé à l'enseignement, je me suis retrouvé à accompagner 1500 enseignants, 20 000 élèves, 500 personnels au GEC. C'était une grosse entreprise, entre guillemets, et donc ça me prenait la moitié de mon temps. Et puis l'autre moitié de mon temps, je m'occupais des jeunes, je m'occupais des écoles, je m'occupais de l'accompagnement de 2 communautés dans la paroisse. Ça a été des années magnifiques et je rends hommage à mon curé qui m'a vraiment aidé à trouver mon rythme de croisière. Ça, c'était les 6 premières années.
Mmh. Et alors ensuite, vous avez été appelé?
Alors, dès la 4e année, mon évêque m'avait dit « Est-ce que tu voudrais bien intégrer l'équipe du séminaire ?» Bon, je lui ai dit « Écoute, non, ça fait 4 ans. »
J'en sors à peine.
Oui, puis j'étais enseignant, laissez-moi un petit peu de temps. Mais tu veux pas enseigner un peu ?» Donc, j'ai accepté de devenir enseignant au séminaire, mais j'ai eu un sursis de 2 ans pour ne pas intégrer tout de suite l'équipe du séminaire.
Séminaire qui était ?
À Nantes.
Donc, pas dans la Mayenne.
Alors, pas en Mayenne, c'est un séminaire interdiocésain pour les Pays de la Loire, qui s'appelle le séminaire Saint-Jean. Et évidemment, à partir de 2006, les évêques redemandant si Luc Meyer, on pouvait le solliciter, mon évêque s'est retourné vers moi. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas dire non. Et donc, je suis parti pendant 10 ans au service de la formation des prêtres, au séminaire interdiocésain des Pays de la Loire. Et je rentrais pratiquement toutes les semaines le vendredi soir, jusqu'au dimanche, pour continuer une vie paroissiale. Ça faisait 140 kilomètres, mais c'était 2 heures de route, et ça valait le coup.
Un petit sas, en quelque sorte, entre l'enseignement et puis le pasteur.
Voilà, et puis l'enseignement, et puis surtout l'accompagnement dans la communauté. Vous savez que les directeurs au séminaire, ils sont enseignants, mais ils sont surtout accompagnateurs spirituels, ils sont éducateurs, ils partagent la vie d'une communauté, ils sont aussi missionnés pour discerner. Et donc ça a été une très très bonne école d'amour de l'Église et de respect des personnes. Et puis en 2010, eh bien le supérieur partant, les évêques m'ont demandé, j'en ai été surpris, si je voulais bien devenir moi-même supérieur du séminaire.
Pourquoi surpris ?
J'étais le plus jeune de l'équipe. Donc je me disais, bah, quand même,
je suis tranquille.
Là, il y a des gens, je les verrais très bien prendre la suite. Et finalement, les évêques ont été chercher le plus jeune. J'avais 42 ans à l'époque. C'était en 2010. J'ai réfléchi un petit peu. Puis je me suis dit, bah, je vais dire oui. Et j'ai été très bien accueilli par mes confrères qui me connaissaient bien et qui m'ont aidé à devenir ce que j'étais, supérieur du séminaire. Ça m'a donné vraiment le goût du travail en équipe et du respect de ceux avec qui on travaille. Moi, je ne serais jamais devenu supérieur si mes confrères ne m'avaient pas aidé. Donc, il y avait le souci du bien commun. Puis, il y en avait un qui était le supérieur. Mais voilà, c'était vraiment un travail ensemble. Et c'est vraiment de très, très grands amis aujourd'hui, quoi. On a beaucoup d'estime les uns pour les autres. Donc, ça a été 6 années magnifiques. C'est très beau d'être témoin du travail que le Seigneur fait dans le cœur de ceux qui se mettent à sa disposition pour devenir prêtre. Jusqu'en 2016.
Vous avez réussi à garder un attachement paroissial, en plus de ça, toujours pareil en Mayenne ?
Oui, alors j'étais devenu prêtre auxiliaire.
Cette fois-ci, ce n'est plus coopérateur, c'est auxiliaire.
Un peu comme les vieux prêtres qui sont auxiliaires. Et c'était bien, j'avais un curé qui faisait tout, et puis moi je présidais la messe, des baptêmes, éventuellement un mariage de temps en temps. C'était des belles années. Et puis en 2016, j'avais dit aux évêques, je suis disponible pour rester, mais je suis disponible pour partir du séminaire. Parce que ça faisait déjà 10 ans et je me disais, tu peux devenir un spécialiste du séminaire, mais maintenant ça fait 10 ans, si tu restes, tu vas être monotâche un peu, et peut-être qu'il y a des besoins aussi dans le diocèse. Et mon évêque à l'époque a dit, oh ben oui, ce serait bien. Et donc les évêques ont compris, donc ils ont cherché un successeur, qui est un homme très très bien, qui a fait de très très belles choses après moi que je n'aurais jamais réussi à faire, de rénovation du séminaire, enfin des choses extraordinaires. Et puis moi, ben, je suis rentré en Mayenne.
Voilà, donc là cette fois-ci, pleinement à 100%.
Alors, à nouveau à 100%,
c'est ça.
Dans le diocèse. Et j'ai été très, oui. très bien accueilli par oui. les confrères.
Oui. À Laval, cette fois-ci.
Voilà, et mon évêque m'a nommé vicaire général.
Oui.
Et puis, j'avais demandé aussi à être responsable d'une paroisse.
Oui.
Et donc, j'ai été administrateur d'une paroisse.
Cette fois-ci,
Saint-Mathieu-sur-Mayenne,
administrateur.
La plus belle paroisse du monde.
C'est le troisième terme qu'on emploie pour ne pas dire curé. Vous avez été coopérateur, vous avez été...
Voilà. Un administrateur, c'est un curé qui n'a pas le temps. Mais il a tous les droits et tous les devoirs des curés, ouais. mais il n'habite pas dans le territoire de la paroisse. Si bien que j'ai fait beaucoup de voitures, puisqu'elle était à 15 ou 20 kilomètres, et j'allais en moyenne 4 à 5 fois par semaine dans la paroisse.
Et
donc j'ai fait beaucoup de voitures, et je crois que j'ai été vraiment adopté par cette paroisse. J'y ai appris beaucoup de choses, paroisse très rurale. Il y avait 9 communes, 9000 habitants, 5 écoles catholiques, 2 EHPAD, un collège public et de bonnes relations avec les maires. Enfin, ça a été un peu ce que je découvre ici en Aveyron. Enfin, c'était le rural que j'aime bien, qui était le rural de mes grands-parents, en fait.
Parce que le vicaire général est aussi une personne qui bouge.
Alors, le vicaire général, c'est aussi une personne qui bouge. C'est aussi une personne qui aide à ce que, dans un diocèse, grandisse la communion et l'estime mutuelle entre les différentes missions. Entre les différents états de vie. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, à aider les uns et les autres à mieux se connaître, à mieux s'estimer, à mieux se respecter. Et ça a été un travail de longue haleine, dont j'ai vu des fruits. Hein, et ça a été une grande joie pour moi de voir les choses petit à petit mûrir. Et c'était aussi un travail qui s'inscrivait dans ce que mes prédécesseurs avaient fait, bien entendu.
Et ces dernières années, vous avez été chargé par votre évêque de porter un synode diocésain. Et pourquoi cette volonté ?
Alors, notre évêque a convoqué un synode sur le conseil du conseil presbytéral. Le conseil presbytéral, à un moment donné, a conseillé, en votant, à notre évêque de convoquer un synode. Et ça a rejoint le secret désir de notre évêque qui le désirait depuis longtemps. Il y a un moment, c'est devenu possible. Et donc on a vécu un synode entre 2018 et 2021, puisqu'il a duré une année de plus, à cause ou grâce à la pandémie de Covid. Ça a été un très très beau moment. J'ai été nommé secrétaire, et la première chose que j'ai fait, c'est de fonder un secrétariat, puisque je n'aime pas travailler seul, et donc nous étions 6, 3 hommes et 3 femmes dans le secrétariat du synode, et on a beaucoup travaillé ensemble, tous les jeudis matins, 3 heures, pendant 2 ans. Et ça a été une expérience ecclésiale extraordinaire. C'était un petit peu la petite roue qui faisait fonctionner la grande roue, qui était le conseil d'orientation du synode, qui faisait fonctionner la très grande roue, les 530 équipes synodales, 3450 personnes qui se sont engagées dans le synode de Laval.
Est-ce que ça veut dire qu'au moment où le grand synode, encore plus grand, convoqué par le pape François, celui-ci vous a rejoint, il vous a rattrapé, il vous a doublé, mais alors est-ce que vous avez refait une démarche? Bien sûr, vous avez capitalisé sur tout ce travail pour produire quelque chose.
Donc le synode communion, participation, mission, lancé par le pape François au niveau mondial, en est à son tout début, puisqu'il y a eu un document préparatoire qui n'était pas encore l'instrument de travail. Et ce document préparatoire, il est arrivé au moment où nous terminions notre synode. Et donc, on avait l'expérience, et j'ose dire l'expertise, dans le conseil d'orientation du synode, qui était composé de 18 personnes, pour répondre à un certain nombre de questionnements sur le vécu de la synodalité dans notre diocèse et sur des perspectives de croissance et les conditions de possibilité d'exercice de cette synodalité. Si bien que nous avons, comme des grands, à 18, essayé de répondre. Puis nous avons publié sur le site internet notre projet de réponse. Ceux qui voulaient pouvaient amender ce texte.
Oui, c'était une manière de renverser la démocratie, puisque vous, en quelque part, vous aviez rassemblé ces années précédentes et vous en avez fait une synthèse et vous l'avez en quelque sorte repartagé.
On a plus partagé les modalités de la synthèse, c'est-à-dire la façon dont nous avons fait vivre la synodalité dans le diocèse, plus que les contenus, même si les conditions de la chose appartiennent à la chose. C'est-à-dire que la façon dont on délibère dit quelque chose du contenu de notre délibération. Donc c'est un peu trop simpliste d'opposer la forme et le fond. Pour un chrétien, la façon dont les choses se passent dit quelque chose du fond. Regardez la nativité de Jésus, la façon dont Jésus naît, comme pauvre parmi les pauvres, dans un pays pauvre, même pas dans la salle commune, mais dans une crèche, ça c'est la forme de sa naissance, ça nous dit un peu qui est notre Dieu.
Merci pour ces mots qui, de toute manière, nous rapprochent de Noël dans quelques jours. On se retrouve la semaine prochaine, Monseigneur.
À bientôt.
Rencontre avec nos évêques.